Waouh, il y a du monde. On a déjà beaucoup reçu ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique. J'ai 3 enfants et un merveilleux mari, David. J'ai préparé ce message avec une énorme joie. Je suis vraiment, vraiment très contente de me tenir devant vous ce matin. J'étais tellement impatiente de voir ce que Dieu avait en réserve pour nous ce matin. Et ce temps de préparation a été une énorme bénédiction. J'ai été bénie. J'ai vécu un temps avec Dieu où il me parlait, où j'avais l'impression qu'il était très proche de moi. Et voilà, ce message m'a déjà bénie pour moi avant. Et il y a des messages qui sont très, qui vont très profond, qui vont chercher le sens des choses, qui vont expliquer. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer ce matin, c'est un buffet. C'est un buffet parce que Dieu m'a donné quelques images, des choses comme ça, et c'est un buffet que j'ai envie de vous mettre à disposition. Vous avez certainement tous déjà vu des carrousels, les manèges. Et à un moment donné, sur ces manèges, quand les enfants sont dessus, il y a un monsieur qui, au bout d'une ficelle, accroche une peluche. Et les enfants sont tous là, en train de regarder cette peluche et de dire « je la veux, je la veux ». Et ils font tout pour la saisir. Et une fois qu'ils l'ont, ils ne la lâchent plus. Et j'ai envie ce matin qu'on puisse avoir cette même attitude pour ce que Dieu a encore en réserve pour nous. Parce qu'il a des promesses et ses paroles pour nous, elles nous donnent la vie. Ses promesses, ses paroles, elles nous donnent la force de faire le chemin, le prochain pas. J'ai envie de commencer par vous raconter une histoire. Ça fait un peu je fais comme ça. J'ai envie de commencer par vous raconter une histoire. Ce n'est pas une histoire très récente. C'est une histoire qui ne se passe pas en Europe, mais qui se passe au Moyen-Orient, au bord du Golfe Persique. Alors, je ne sais pas si vous situez tous le Golfe Persique. C'est au Moyen-Orient. À côté, il y a l'Irak, il y a l'Iran et le Koweït. Vous situez, c'est bon ? C'est une famille qui vivait là, un père et ses 3 fils. Ils vivaient là. À cette époque-là, au niveau économique, ils avaient beaucoup d'élevage. Donc cette famille avait un grand élevage. Ils étaient importants. À un moment donné, le dernier fils, il décède. Et à ce moment-là, le papa, il prend toute sa famille et il déménage. Ils font un long voyage. Ils marchent. À cette époque-là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de moyen de transport plus rapide que les pieds. Et ils ont fait un énorme voyage. Ils sont allés jusqu'à Raqqa. Vous connaissez Raqqa ? On la connaît tous, cette ville, maintenant. Ils sont allés jusqu'en Syrie. Ils ont marché. Et ils ont habité là-bas un moment. Et ensuite, c'est le papa qui est décédé. Peut-être parce que la route avait été longue. Mais le papa est décédé. Et à ce moment-là, un petit peu après, le fils aîné, il fait une révélation puissante avec Dieu. Il se passe quelque chose de puissant avec Dieu. Dieu s'adresse à ce fils aîné et il lui dit « Pars ». Pars du pays de ton père et va dans le pays que je te donne. Je ferai de toi une grande descendance. » Et le fils, il part et il redescend jusqu'au nord de la Jérusalem actuelle. Alors j'imagine qu'à ce stade-là, vous avez reconnu l'histoire que je vous avais racontée. C'est l'histoire d'Abraham. D'Abraham qui habitait d'abord dans le Golfe Persique avec son père. Ils ont marché. Et en fait, j'avais envie de vous amener cette histoire d'une manière un peu différente. Je suis allée voir, d'après les renseignements que j'avais trouvés dans la Bible, je suis allée voir les lieux où il avait été. Et je suis allée sur Google Maps. Et j'ai tapé le lieu, et c'était au bord du Golfe Persique. Et pour aller du Golfe Persique jusqu'en Syrie, c'était 1200 kilomètres. C'était, j'ai calculé, ça faisait 240 heures à pied. Et ensuite, depuis la Syrie jusqu'au nord de Jérusalem, c'était 700 kilomètres, 120 heures à pied, 142. Quel trajet! Et donc ça fait ça. Et je me suis demandé, mais pourquoi ils n'ont pas coupé? Ça aurait été bien plus rapide. Pourquoi ils n'ont pas coupé? Après, en réfléchissant, je me suis dit, mais il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont fait ce même trajet. Est-ce que vous vous souvenez le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, quand ils avaient tellement péché, quand ils avaient tellement désobéi à Dieu, à un moment donné, ils sont partis en exil. Ils se sont retrouvés, peut-être pas au bord de la mer du Golfe Persique, mais dans cette région-là. Et quand ils sont revenus d'exil, ils ont refait le même chemin. comme ça. Pourquoi ils n'ont pas fait en travers? Pourquoi ils ont pris cette peine de faire un aussi long trajet? Donc je suis allée sur Google Maps, j'ai zoomé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont suivi la voie de l'eau. Ils ne pouvaient pas traverser le désert où il n'y avait rien. Ils ont suivi le chemin de l'eau. Et vous savez, quelle est l'eau qui part du golfe Persique jusqu'en Syrie? C'est l'Euphrate. Donc ils ont suivi tout l'Euphrate, en fait, jusqu'en Syrie. Et ensuite, ils sont redescendus. Ils ont dû passer par un coin de désert qui était ponctué d'eau. On le voit sur Google Maps. Et ils sont arrivés ensuite à Jérusalem. J'y reviendrai sur l'histoire de l'Euphrate et sur le trajet qu'Abraham a fait. Je vais vous lire l'appel qu'Abraham a reçu la première fois en Syrie. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Si je raccourcis, l'appel d'Abraham, c'est « Va et deviens une source de bénédiction. » Et cet appel, quand je l'ai lu, il m'a fait vibrer parce que je ressentais, c'est un appel pour tout le monde bien sûr, mais je sentais qu'il avait un impact prophétique pour nous, pour chaque personne individuellement, mais peut-être pour cette église. Va et deviens une source de bénédiction. Alors j'ai envie de décliner cet appel-là en trois parties. La première, c'est que si Dieu dit à un moment donné « va et deviens une source de bénédiction », c'est qu'il y a une rencontre entre Dieu et Abraham, entre Dieu et l'homme, entre le surnaturel et le naturel. Quand il y a cette rencontre-là, il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas Dieu personnellement, mais qui font peut-être cette expérience d'un amour avec un grand A. Cet amour qui surpasse tout, ils ressentent ça, c'est quand le surnaturel rencontre le naturel. Ou alors une immense paix, quand le surnaturel rencontre le naturel. Des fois, il y a des gens qui ont conscience, sans pouvoir mettre tout de suite un mot dessus, qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est encore une fois Dieu qui se révèle, Dieu qui se manifeste. Cette rencontre-là, elle nous dit que nous avons été choisis par Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Un jour, je n'ai pas dit, bon, maintenant, je vais croire en Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Moi, je suis née dans une famille chrétienne et depuis toute petite, j'ai conscience qu'il y a un Dieu, qu'il y a mon Dieu, depuis toute petite. Et il y a des évolutions dans mon parcours où je me suis dit, non, mais Véronique, c'est toi qui as dû choisir un moment, c'est toi qui as décidé que... Et on se met des fois à douter. Mais non. C'est du 100% made Dieu. C'est Dieu qui a choisi, qui nous a choisis. Et il y a ce verset qui dit, vous avez été choisis dès avant la fondation du monde. On ne peut rien y rajouter. On ne peut rien y rajouter. Vous avez été choisis. Ça, c'est possible uniquement par grâce. Ce n'est pas mes mérites qui comptent pour ça, ce n'est pas mes bonnes œuvres, ce n'est pas une bonne intention, c'est juste la grâce. Parce qu'à un moment donné, il y a un homme qui est mort à ma place et qui a pris sur lui toute ma culpabilité. Il a pris sur lui toutes mes fautes, il a pris sur lui tous mes manquements. Et il me donne un accès libre à Dieu. Il permet cette connexion entre le surnaturel et le naturel. Alors, si cette rencontre est possible, c'est un parallèle avec la conversion. Pour certains d'entre nous, c'est il y a très longtemps. Pour certains d'entre nous, c'est très récent. Mais j'avais vu ce parallèle-là. Quand il y a cette rencontre, quand Dieu dit ça, c'est une conversion. Parce que Dieu, il recherche une relation. Il recherche une relation avec nous. Une connexion de cœur à cœur. Nous avec Dieu. Nous avec le surnaturel. Le deuxième point, c'est que Dieu dit d'abord « va ». Dans ce « va », il y a un mouvement, il y a ce « quitte », il y a une notion de quitter, « va ». Alors pour la petite anecdote, on a une chienne et on l'a éduquée comme ça, c'est que quand elle est en laisse, on lui demande de s'asseoir, on enlève la laisse, elle ne bouge pas et au moment où on dit « va », elle détale. Voilà, on l'a éduqué comme ça pour pas qu'on doive tirer tout le temps. Et ça m'a fait penser à ça, c'est que nous, on peut être assis, mais Dieu nous dit « va ». Ça a une notion de départ, ça a une notion d'aller quelque part. Dans la Bible, il y a plusieurs endroits où il y a cette notion de quitter quelque chose. Déjà, au tout départ, Dieu il dit à Adam « quitte ton père et ta mère et attache-toi à ta femme ». Il y a une notion de quitter quelque chose pour rentrer dans une nouvelle dimension. Il y a aussi Paul qui dit « je ne regarde pas ce qu'il y a en arrière, mais je cours devant pour saisir le prix ». Et Abraham, Dieu lui dit « quitte, quitte ». Alors quitter, ça ne veut pas dire qu'on doit faire abstraction totale de ce qu'il y a derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire abstraction totale de notre vécu, de qui on était avant cette rencontre avec Dieu. Mais ça veut juste dire qu'on est libre, de ce qu'il y a derrière pour avancer devant. On avance libre. Là encore, c'est juste le bénéfice de la croix, le bénéfice du sacrifice de Jésus pour nous. C'est rien de plus, c'est ça, c'est complet. Jésus a tout pris pour que Dieu puisse nous dire « va, tu es libre ». Et chacun de nous, on est libre, on est libre. Ce « va », il a aussi une notion de nouvelle identité. Comme si c'est une nouvelle identité, on était quelque chose, on rencontre Dieu et ensuite on va. On est revêtu d'autre chose que juste ce qu'on était avant. On est revêtu comme d'un manteau, de fils et de filles de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si Dieu il nous dit aujourd'hui « va », et je crois vraiment que c'est un message pour chacun, si Dieu nous dit « va », on peut avoir confiance, parce que c'est lui qui est le gérant, c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains, et que dans notre tête, on puisse avoir ce déblocage de comprendre en entier qu'on est complètement libre de ce qu'il y a derrière. Dieu recherche une relation. Une relation. Le troisième temps, c'est la troisième partie, c'est « devient une source de bénédiction ». Il y avait le va, ok, Dieu nous donne le mouvement, il nous détache la laisse de notre esclavage d'avant pour nous dire va. Et maintenant, il y a le devient, une source de bénédiction. Le devient, ça a une notion de processus, ça a une notion de transformation, quelque chose qui change. Est-ce qu'à un moment donné, dans notre vie, on peut dire ça y est, je suis? Ou est-ce qu'on est toujours en train de dire ben, « je deviens » À quel moment est-ce que quelqu'un a pu dire un jour « ça y est, je suis » Je crois que le vrai « je suis » finalement, il y en a un qui l'a dit. C'est quand Moïse rencontre Dieu dans le désert et qui dit « mais bon, si je parle au peuple d'Israël, je vais dire que tu es qui ?» Et Dieu dit « je suis ». Ok, merci Seigneur parce que toi tu es. Mais nous, pour l'instant, on est « je deviens ». Et je crois que c'est un processus de toute une vie qui s'arrête à la fin de notre vie, une fois au ciel. Mais sur terre, on devient. Alors l'exigence de Dieu pour nous, quand on lit la parole de Dieu, elle est très très haute. Il y a le passage de verset qui dit « soyez parfaits ». Soyez parfaits. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, on peut gagner en maturité, en sagesse. Donc, on n'a plus des paroles blessantes envers les gens. Peut-être qu'au bout d'un moment, nos actions, elles sont plus conformes à ce que Dieu veut pour nous. Donc, on est plus parfait. Mais dans notre cœur ou dans nos pensées, est-ce qu'on a enlevé toute la crainte? Est-ce qu'on a enlevé tous les doutes? Je crois qu'on ne sera pas parfait sur cette terre. Désolée. Je crois qu'on ne sera pas parfait. Mais je crois que, voilà. Il y a aussi une autre exigence, c'est que Dieu dit « ne péchez pas, ne péchez pas », toujours dans ce processus. Le verset dit « celui qui est à lui ne pêche pas ». Ok, on ne va pas pécher. Je crois que ce verset, en fait, « ne pêche pas », il dit, si on recherche au niveau de la racine, « ne reste pas dans le péché ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de péché, il y a des tentations, il y a plein de choses. Mais on ne reste pas consciemment dans le péché parce qu'on veut aller, on veut devenir. Donc si on ressent qu'il y a des choses, on sort et on avance libre de ce que Dieu, de ce que Jésus a acquis pour nous. Le niveau, il est très très haut. Il est très très haut finalement. Dans l'Ancien Testament, commettre l'adultère était surtout basé sur des actes. Mais dans le Nouveau Testament, l'adultère est même basé dans les pensées. C'est très élevé. Il y a ce parallèle-là pour beaucoup de choses entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est énorme. Mais je crois que là, le devient, une source de bénédiction, est libérateur. Parce que c'est devient. Tu ne seras pas, mais on doit tendre à. On doit être en cheminement. Il y a cette rencontre avec Dieu. Il y a cette identité qu'on revêt et devient. Et l'appel de Dieu pour nous, je vais vous le lire. C'est dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire. Ce devient, il est notre vie de gloire en gloire. Il y a des moments où on ne croit pas que c'est de gloire en gloire. Il y a des moments où on croit qu'on a régressé tellement, tellement, tellement. Mais je crois que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et on doit s'approprier et dire non, même si j'ai l'impression que peut-être je suis là, Dieu, il a prévu des plans de gloire en gloire pour moi. Ce devient, il a une notion d'action. C'est un mot actif. C'est un impératif. Deviens. Devenez, deviens. Il y a une action. Et pour moi, il y a deux choses dans cette action. Il y a une action de Dieu dans notre vie et une action de nous. Je vais reprendre ce que Dieu a dit à Abraham. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu a dit qu'il nous bénira. Dieu a dit qu'il nous fera multiplier. C'est sa part à lui. Notre avenir est complètement entre ses mains. Il est le gérant.
Il y a un berlingot gris qui gêne un voisin. Le voisin est venu se plaindre. Est-ce qu'un berlingot gris... Non ? Bon.
Donc, je disais qu'il y a cette action de Dieu. Dieu qui dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Dieu est le Dieu qui donne les promesses. Dieu, il a donné une promesse à Abraham. Mais est-ce que Abraham a réalisé la totalité de cette promesse ? Est-ce que même à la fin de sa vie, il a réalisé que Dieu l'avait béni et qu'il était aussi nombreux que les étoiles du ciel et aussi nombreux que les grains de sable ? Je ne crois pas. Abraham, il a eu son premier enfant à 100 ans. Il a eu son premier enfant de la promesse à 100 ans. Il a essayé avant de rentrer dans cette promesse. Il s'est dit, bon, on va prendre la servante de Sarah et on va accomplir la promesse que Dieu a pour nous. Non, ça n'a pas marché. À un moment donné, c'était l'intervention de Dieu dans sa vie qui a produit la promesse. Et il est devenu grand-père de jumeaux à 165 ans. Et 15 ans après, il est décédé. Est-ce qu'avec tout ça, il a pu se dire, « Oh Seigneur, tu me multiplies, aussi nombreux que les étoiles. » Je ne crois pas. Et peut-être pour nous aujourd'hui, Dieu a des promesses pour nous. On est certain de certaines choses, mais qu'en fait, on a l'impression juste qu'on ne voit pas la totalité. Peut-être qu'on doute, et peut-être qu'on n'ose même plus croire aux promesses que Dieu a pour nous. Mais j'ai envie de vous encourager. Abraham, il n'a pas une vie facile forcément, mais il a eu la foi, il a persévéré. Et par la foi, les choses se sont accomplies. Il y a un fils qui est rentré dans la même lignée, c'est Isaac. Et un autre fils qui est rentré dans la lignée, c'est Jacob. Et ensuite, plus loin, c'est Jésus. Et ensuite, plus loin, c'est nous. Nous sommes dans cette bénédiction d'Abraham. Et Dieu a des plans, des promesses pour chacun de vous. saisissons-les par la foi et croyons par la foi qu'elles sont vraies. Comme je disais, la vie, c'est un processus de gloire en gloire. Mais alors, on avance comment dans cette vie? Comment est-ce qu'on devient? Et ça, c'est notre part. On a vu la part de Dieu, les promesses, mais ça, c'est notre part à nous. Comment est-ce qu'on devient? Si on regarde dans le monde entier, je suis sûre qu'il y a plein de manières d'avancer dans la vie, selon notre croyance, selon ce qu'on a appris, selon d'où on vient. Mais je crois que la seule, la meilleure façon d'avancer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle crée la vie. La terre a été créée, l'univers a été créé par cette parole. Et cette même parole crée en nous la vie. Et c'est une source intarissable. À aucun moment on peut se dire, ça y est, j'ai compris. Non. À chaque moment, elle est adaptée pour ce qu'on doit vivre et elle nous nourrit. Je vais lire avec vous le psaume 1, juste le début. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Médite la parole jour et nuit. Si vous l'essayez un petit moment, je peux vous dire que toute votre tête est remplie par ça. Hein. Il n'y a plus rien d'autre. Hein. Méditer la parole jour et nuit, ça prend toute l'attention. Et ça pose la question de qu'est-ce qu'on a dans notre tête? De qu'est-ce qu'on met dans notre tête? La priorité là pour la parole de Dieu, elle est importante. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais Véronique, si tu devais faire la liste de tout ce à quoi tu penses, il y en a des choses. Hein. À l'ère d'aujourd'hui, on ne manque pas de stimulation intellectuelle, tout ça. Hein. Aujourd'hui, on mange et on fait Facebook en même temps. On va aux toilettes, on fait Facebook en même temps. On parle à quelqu'un, mais attends, j'ai un message. On fait plein de choses. Notre tête est toujours occupée, toujours. Et je crois que là, on a une différence à faire. Parce que la parole dit, médite la parole, jour et nuit. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout arrêter et commencer à lire la parole non-stop. Mais ça pose des questions. Merci David, parce que tu as pris le chant que j'adore. Le chant, moi je préfère la version littérale, c'est « Je serai un faiseur d'histoire ». Depuis que ce chant de Delirious est sorti, vous voyez lequel c'est bon ?« I'm gonna be a history maker in this land ». Depuis qu'il est sorti, j'habitais en Suisse, et ben, il a tellement résonné en moi, j'avais envie d'être cette changeuse d'histoire. J'avais envie que ma vie change, j'avais envie que ce qu'il y a autour de moi change et que ma nation change. Aujourd'hui, je suis en France, j'ai envie que je change, j'ai envie que ma famille change, j'ai envie que mon entourage change et que mon pays change. Et je crois qu'il y a un vrai challenge, parce que Dieu il dit, mettez certaines choses de côté pour essayer de saisir les choses importantes. Quelqu'un qui se prépare pour les Jeux Olympiques, il se prépare pendant longtemps pour un événement. Il passe pas, il va pas tous les jours au McDo parce qu'il n'arrivera pas à réussir ses prouesses sportives. Il se met une discipline de vie pour arriver à quelque chose. Et je crois qu'il y a un appel comme ça sur nos vies. Il y a un appel à savoir, à connaître qu'on a une espérance qui est différente, qu'on a un appel qui est différent et que notre vie aujourd'hui, on va la calquer sur ce qu'on va vivre, sur notre récompense éternelle. Marquons une différence. Soyons des faiseurs d'histoire et choisissons ce qui occupe nos pensées. Philippiens, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voulez que je vous le relise ? Tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Dieu ne nous demande pas de mettre ces choses dans notre tête par légalisme ou juste pour une discipline, mais ces choses-là, elles produisent le bonheur. Ce sont des choses qui sont positives, ce sont des choses qui nous font rayonner, ce sont des choses qui nous font du bien. Regardez une personne qui pense tout le temps négatif, vous verrez sur sa vie des choses d'éteindre en négatif. Prenez quelqu'un qui est positif, qui voit les choses positivement, qui applique ces choses, il y a un autre rayonnement autour. Choisissons ce qu'on a envie de penser. Les pensées sont importantes. Méditer la parole, c'est une nourriture. La parole est une nourriture. J'ai remarqué des périodes dans ma vie où je ne lisais pas la parole parce qu'on a tellement de choses à faire. Mais il y a un vrai manque. Il y a un vrai manque. On a besoin de lire la parole de Dieu. Ça nous donne un renouveau, en fait. La parole de Dieu, j'ai cette même image que la manne. La manne, c'était la nourriture de Dieu, que Dieu donnait au peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Ils n'avaient rien. Ils comptaient juste sur Dieu qui, chaque matin, faisait déposer de la manne. Alors, chaque matin, le peuple sortait, ils allaient ramasser la quantité dont ils avaient besoin, ils rentraient chez eux, ils cuisinaient leur semoule, ils cuisinaient ce qu'il fallait, et ils la mangeaient. Et le soir, ils avaient vidé les stocks. Le lendemain, ils reprenaient, ils recommençaient. Il y a des personnes, je pense que j'aurais fait pareil, qu'on en prit un peu plus, pour se dire, bah, demain matin, j'y vais pas. Et bien en fait, le lendemain matin, c'était pourri, c'était moisi, c'était immangeable. Et je crois que la parole de Dieu, c'est ça, on en a besoin chaque jour. On ne peut pas se dire, bon, waouh, j'ai une super révélation aujourd'hui, elle va tenir une semaine. À un moment donné, on se sent vide, parce qu'en fait, ça ne tient pas. On a besoin d'un renouveau avec Dieu, sans cesse. On ne peut pas stocker. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, de séminaires où je suis allée, et j'avais tellement été impactée par le message qui me chamboulait, que je me suis dit, bon, Véronique, cette fois-ci, tu vas lire tous les jours ce que tu as appris à ce séminaire pour que vraiment tu puisses en bénéficier pleinement. Alors je lisais, mais à un moment donné, je me suis dit, mais et maintenant, je vis comment? On ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il y a là pour avancer tout le temps. On doit s'appuyer, mais on doit être toujours renouvelé par Dieu. Ça nous arrive à tous, hein, de vivre, par exemple, une révélation importante. Et dans notre vie de tous les jours, quand on loue Dieu, on a toujours cette révélation-là où on s'approche de Dieu d'une manière, la manière dont on s'était approché. Mais Dieu, comme on avance tout le temps, Dieu, il se reflète différemment. Et on a besoin de ces rayons qui sont neufs pour nous chaque jour. Sinon, si on ne renouvelle pas, au bout d'un moment, ce qu'on croit, c'est creux. Ça n'a plus de sens. Dieu recherche une relation. On est un petit peu comme les téléphones portables qui ont Internet. Hein. Si vous avez remarqué, il y a tout le temps des mises à jour qui sont faites régulièrement. Eh bien, on est pareil. Hein. On devrait avoir une mise à jour tous les jours avec Dieu. On a besoin d'être renouvelé. Si on n'est pas renouvelé, en fait, à un moment donné, ce qu'on met dans le téléphone, il ne fait pas la connexion, il est trop vieux. Et je crois que c'est pareil, on a besoin d'être tout le temps renouvelé. Dieu ne veut pas une relation de procuration avec nous. Je ne peux pas dire, tiens, je te donne une lettre, et avec cette lettre, tu vas parler à Dieu pour moi. Non, il n'y a personne qui peut jouer ce rôle-là de relation de cœur à cœur que je dois avoir avec mon Dieu. Il y a un exemple dans la Bible de ce que je suis en train d'expliquer là, que si on s'appuie sur les choses anciennes pour vivre ce qu'on a à vivre, au bout d'un moment c'est creux, c'est vide. C'est le peuple d'Israël, après leur sortie en Égypte, ils sont arrivés devant le mont Sinaï et ils font une expérience incroyable. Ils entendent le tonnerre, ils entendent la voix de Dieu et ils sont persuadés qu'ils vont mourir à ce moment-là. Donc ils disent à Moïse, « Moïse, sois notre médiateur !» Parle à Dieu et toi tu nous diras ce qu'il a dit. Mais à un moment donné, pendant 40 jours, Moïse il va sur la montagne. Le médiateur avec Dieu, il n'est plus là. Il n'est plus là pendant 40 jours. Et à un moment donné, le peuple il dit, bon, ben, ça fait un peu long, hein, ça fait un petit peu long. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se font un veau d'or. Et je crois vraiment que dans nos vies, si on n'actualise pas, à un moment donné, ce qu'on croit, ça peut devenir une idole aussi pour nous. Parce que Dieu recherche un cœur à cœur, pas une méthode, rien, mais un cœur à cœur. Et tout ce qui viendrait en opposition avec ce cœur à cœur, c'est une idole en fait. C'est une idole. Alors c'est pas l'idole de star qu'on voit à la télé, c'est pas non plus une idole en bois comme on peut lire dans la Bible, mais c'est une idole. Et je vous le dis parce que pour moi personnellement, j'en ai aussi eu des idoles. J'en ai aussi eu des petites voix qu'on entend qui nous guident, qui sont pas celles de Dieu forcément, mais qui impactent nos vies, qui font que, par exemple, on anticipe des réactions de personnes ou des remarques et on aligne notre vie sur ça. Mais Dieu, on veut être guidé par toi. Et je pense que ça nous arrive à tous. On peut avoir la voix de notre femme, la voix de notre mari, la voix d'une autorité religieuse aussi, qui a une importance pour nous. Mais la voix qu'on doit entendre en priorité, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faisait avec les idoles dans l'Ancien Testament ? Il les abattait. Alors on ne va pas abattre notre femme, notre mari ou les autorités religieuses. Mais ce n'est pas elles le problème. Le problème, c'est la place que ça prend en nous. Et on doit les abattre. On ne doit pas avoir ce genre de choses. Alors chacun son cheminement pour pouvoir le faire. Le sozo est génial pour ça. Mais cheminer chacun personnellement aussi en se remettant devant Dieu, en disant « Seigneur, révèle-moi les idoles, révèle-moi ce qui bloque un cœur à cœur complet avec toi. » Et on avance. Voilà, donc il y a plusieurs points que j'ai cités. La vie, c'est un processus. Il y a une action de Dieu et de nous. Les pensées sont importantes. Et la relation, Dieu cherche une vraie relation. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Et un temple ne doit pas être souillé. Un temple ne doit pas avoir des idoles. Faisons tous nos efforts. Dieu fait sa part. Nous faisons tous nos efforts pour être un temple saint. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du message de Nicolas Thévenet qu'il avait fait sur le temple. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui coule du temple ? Des fleuves. Il coule des fleuves. Des fleuves d'eau vive. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, deviens une source de bénédiction. Dans le Nouveau Testament, c'est marqué, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Du temple coulent des fleuves de bénédiction, des fleuves pour la guérison des nations, des fleuves où, autour desquels les arbres poussent et on leur récolte. Le fleuve, ce n'est pas un étang. Un étang, au bout d'un moment, on n'a plus envie de s'y baigner. Hein. L'autre jour, on était à la rivière avec les enfants. Et la rivière, quand on va au milieu, on est emporté. La rivière nous amène quelque part. Et Dieu nous amène toujours quelque part. Quand on rentre dans son fleuve, on avance, on va quelque part. Nicolas avait dit aussi que le jardin d'Éden est considéré comme un temple. Le jardin d'Éden, si on regarde la description dans la Genèse de l'Éden, coule des fleuves. Et vous savez, vous connaissez le nom d'un des fleuves ? C'est l'Euphrate. L'Euphrate qu'on a cité tout à l'heure dans le parcours d'Abraham. Le golfe persique, l'Euphrate qui va jusqu'en Syrie. Abraham a suivi l'Euphrate pour ensuite aller au pays promis. Israël a suivi l'Euphrate pour aller dans le pays promis. Et ce matin, j'ai envie de dire, on est des temples, que de nous coulent des fleuves pour que des gens puissent remonter d'exil, pour que des gens puissent venir et s'approcher de Dieu, être adoptés par Dieu. Que de nous coulent des fleuves pour que les gens puissent s'approcher de Dieu, être guéris et restaurés. Alors, va et sois une source de bénédiction. Amen.